10 janvier 1920, lorsque la Société des Nations a vu le jour. C'était une des conséquences de l'entrée en vigueur du maudit traité de Versailles, vous savez, signé le 19 juin de l'année précédente. La Société des Nations, la SDN, comme on allait se mettre à l'appeler, est une première tentative de concertation des puissances à l'échelle mondiale. Elle avait été imaginée, promue par le président américain Wilson. Il en avait fait un des 14 points de règlement de la Première Guerre mondiale. Et vous savez que finalement, le Congrès américain s'est refusé à ratifier le traité de Versailles. Ce n'était pas le moindre des paradoxes de cette institution, la SDN, que l'État qui se trouvait à son origine ait commencé par s'en abstenir. Vous savez aussi que dans l'entre-deux-guerres, plusieurs autres grandes puissances vont quitter la SDN, l'URSS, l'Allemagne nazie, le Japon, entre autres. Comment vouliez-vous, dans ces conditions, que l'institution nouvelle puisse jouer un véritable rôle ?
Oui, et si je me rappelle bien, Franck, la SDN siégeait à Genève.
Oui, ça mène en Suisse, en territoire neutre, dans des locaux construits exprès, qu'on appelle le Palais des Nations. Alors cette amorce très balbutiante, je vous le concède, de gouvernement mondial, qui est en quelque sorte une préfiguration de l'ONU, cette amorce est fondamentale dans la mesure où elle témoigne d'un changement de philosophie diplomatique. On envisage maintenant de dépasser les vieux antagonistes, les vieux antagonismes, pardon, nationalistes. Du reste, la SDN aura eu davantage de succès qu'on ne le dit, ne serait-ce que dans la décennie 1920. Par la suite, elle n'était pas de taille à s'opposer à ce qui se tramait, et c'est Mussolini qui l'a très bien dit. La Société des Nations est efficace quand les moineaux piaillent, et plus du tout quand les aigles attaquent.